France Musique. France Musique.
Vous allez l'adorer.
Comment jouer d'un instrument de musique sans risque de transmission du Covid et sans mise en danger du public? Trois structures ont mis leurs forces pour travailler sur la gestion en commun. Donc leurs forces, le syndicat des forces musicales qui lui rassemble orchestre et opéra, l'Institut technologique européen des métiers de la musique, l'ITEM au Mans, et puis la chambre syndicale de la facture instrumentale dont vous êtes la vice-présidente, Fanny Herménard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également luthière à Nantes. Alors avant de présenter vos conclusions, quelle était l'idée de départ?
Alors oui, ce projet qui s'est lancé, l'idée de départ, c'était la question qui s'est posée à tous en avril dernier, mars-avril, c'était pratiquer un instrument de musique, est-il dangereux? C'était une question qui nous touchait au plus haut point, nous les facteurs d'instruments, mais également tous les praticiens de la musique. On voulait être à même de répondre à cette question, on voulait aussi comprendre ce qui se passait avec nos instruments et la pratique musicale en général, et pour avoir les cartes en main pour établir et pour recommander des protocoles sanitaires adaptés.
Comment vous avez procédé, vous, mais aussi, je le disais, l'Institut technologique européen des métiers de la musique? Vous avez fait des études, des expériences scientifiques?
Oui, on a commencé par constituer un pôle entre nous, en mettant en commun ce qu'on pouvait avoir d'utile, et notamment les ingénieurs qui travaillent chez nous, qui nous ont servi pour établir une petite équipe scientifique et puis des gens autour, moi-même et d'autres personnes, pour assurer tout ce qui était nécessaire autour, pour aller chercher les moyens, pour mettre en œuvre les projets. On a après, à partir de ça, on s'est posé les questions, on est allé chercher les moyens pour répondre et en travaillant avec des équipes scientifiques extérieures, le laboratoire des virus émergents à Marseille, des start-up et des entreprises spécialisées à la fois dans la mesure des aérosols et dans la modélisation 3D. Donc tout ça a fait un ensemble de compétences qui étaient prêts à essayer de répondre à toutes ces questions compliquées.
Alors là, les questions, les réponses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent là à 7h21, on voit des orchestres qui jouent malheureusement sans public, mais avec des plexiglas, avec des distances, et puis il y a les orchestres professionnels, mais il y a aussi tous les musiciens dans les conservatoires, les harmonies, les orchestres amateurs. Quelles sont les conclusions aujourd'hui que vous émettez, Fanny Herménard, vous à la Chambre syndicale de la facture instrumentale, conjointement, je le disais, avec le syndicat des forces musicales et l'Institut technologique européen des métiers de la musique?
Alors, on a produit plein de choses, on a produit plein de documents, mais quelques conclusions intéressantes. D'abord, et parce que ça, c'était une question qui était assez primordiale pour nous, c'était ce qui se passait avec les instruments avant. Les instruments avant, on souffle dedans, on émet beaucoup de sons, et est-ce qu'on émet beaucoup de choses dangereuses? Eh bien non, en fait non, on émet beaucoup de sons avec un instrument avant, mais ce qu'il en ressort au niveau de cette production, ces fameux aérosols, en fait, ça n'a rien de très très dangereux, ça n'a, voilà. Donc en fait, il n'y a pas de projection supérieure à ce qu'on peut émettre vraiment quand on parle. Peut-être même plutôt moins, puisqu'il y a des dépôts à l'intérieur de l'instrument. Donc oui, on peut jouer des instruments avant sans mettre le monde entier en danger. Pour autant, quand on joue un instrument avant, on n'a pas de masque, vous avez remarqué. Et donc, il convient de respecter les distances que tout un chacun doit respecter quand on n'a pas de masque, c'est-à-dire s'éloigner de 2 mètres les uns des autres. Donc ça, c'est une des choses vraiment importantes. On a aussi beaucoup, beaucoup progressé sur la compréhension de comment on pouvait désinfecter les instruments, puisque les instruments sont manipulés et peuvent quelquefois passent de main en main, quelquefois sont essayés, dans le cas à la fois chez nous pour les facteurs d'instruments, mais également dans le cas des conservatoires, dans le cas des instruments rares. Et là, on a vraiment tout un plein de réponses, plein de choses faciles à mettre en œuvre pour désinfecter les instruments qui doivent passer de main en main.
Tous ces documents, ces conclusions, où est-ce qu'on peut concrètement les consulter aujourd'hui?
Alors, il y a deux moyens de les consulter. D'abord, on a fait des fiches, un certain nombre de fiches pratiques qu'on remet à jour régulièrement, qui sont téléchargeables à la fois sur le site de la CSFI et le site de l'ITEM. et également ceux sur les forces musicales d'ailleurs. Et puis autrement, le 31 mars prochain, on va faire un webinaire à partir de 17h où on va présenter à la fois nos études et un certain nombre de nos résultats. Voilà, ça va être les deux indications, les deux moyens les plus simples d'aller trouver toutes ces réponses.
Pour finir, ces conclusions-là, vous les avez soumises au-delà du grand public, soumises aux autorités. Quelle est la suite maintenant? Et j'imagine que vous avez partagé aussi avec d'autres pays qui ont expérimenté les mêmes protocoles et qui se sont penchés sur les mêmes questions.
Oui, alors, je vais commencer par la dernière partie. Donc, effectivement, c'est un travail de notre équipe à travailler en collaboration et en interaction avec les autres équipes à l'étranger qui ont travaillé sur les mêmes sujets. D'ailleurs, aujourd'hui même, ils se font un symposium entre eux, les équipes les plus significatives qui ont travaillé sur ces projets, échangent, partagent leurs résultats, leurs questions sur leur méthodologie et analysent leurs divergences et convergences de résultats. Donc ça, c'est un joli travail de collaboration internationale et sur laquelle c'est notre équipe a été moteur, donc on peut être assez fier de ça. Après, pour le partage de nos travaux, en fait, nos travaux, ils avaient deux destinataires. D'abord, le monde musical qui en a besoin et aussi les pouvoirs publics pour alimenter leurs réflexions et on espère leurs sages décisions. Et on peut dire et souligner que le ministère de la Culture a, dès le début, soutenu nos travaux, nous a donné des moyens financiers qui ont fait un effet levier certain pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est donc, on essaye d'apporter des éléments nécessaires à tous.
Merci, merci Fanny Herménard, vice-présidente de la Chambre syndicale de la facture instrumentale et ses conclusions. Bah, les liens seront sur francemusique.fr également, sur la page au fil de l'actu. Merci beaucoup.
Merci, au revoir, bonne journée.
Bonne journée. Vous avez également travaillé avec les ingénieurs en recherche et développement de Buffet Crampon. Il est testeur de clarinette chez Buffet Crampon. Voici Nicolas Baldero, également clarinette solo à l'Orchestre Philharmonique de Radio France dans la musique de Brahms.
Thank you.
Nicolas Baldero à la clarinette, Raphaël Perrault au violoncelle, Geoffroy Couteau au piano. C'était le final du trio en la mineur opus 114 de Johannes Brahms.
À réécouter sur francemusique.fr.